Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut très bien l'acclamer? Il est la seule personne qui mérite nos acclamations cet après-midi. Je ne dis pas d'applaudir, je suis en train de dire d'acclamer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Je n'ai qu'un seul passage aujourd'hui. Et là, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, 7 et 8. Et puis nous allons sauter jusqu'au verset 14. Lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le verset 14 dit ceci, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus, était avec les frères de Jésus. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, merci infiniment pour cette opportunité que tu nous accordes encore cet après-midi, afin de nous réunir pour écouter ta parole. Je suis en train de prier que tu atteins tes objectifs aujourd'hui et que tu glorifies Jésus dans notre vie, Père. Personnellement, je me tiens ici, je n'ai aucune qualité pour parler de ta part, car la Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Raison pour laquelle vous êtes témoin que si tu ne me soutiens pas, je ne peux que transmettre mes pensées et aucun impact ne sera notre partage. Raison pour laquelle, dans toute humilité, Seigneur, je prie que ta présence soit notre partage et que tu inspires les paroles de nos bouches. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi nous te prions. Amen. Alléluia. Avant de développer, avant d'aller plus loin, dans mon message cet après-midi, j'aimerais quand même dire merci à Dieu, lui qui a trouvé bon que je puisse être l'homme par qui il va passer aujourd'hui pour transmettre la parole de Dieu. Je dis vraiment merci à Dieu. Je n'ai aucun diplôme de théologie, mais quand même, Dieu a trouvé bon de me laisser parler de sa part aujourd'hui. Et mes deuxièmes remerciements sont adressés à mon président de la jeunesse qui a eu confiance en nous cédant la chair. C'est vraiment une marque de confiance incomparable. Merci, cher président, avec tous les comités de la jeunesse, bien évidemment. Bienvenue, pasteur, et que Dieu vous bénisse encore une fois de plus d'être là. Amen, amen. Et pour vous tous qui êtes venus pour écouter la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse, et je prie en tout cas que le Seigneur puisse vous parler cet après-midi. Amen, amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Josué Shinja. Je suis serviteur dans cette église, je suis le vice-président de la chorale, mais aussi je suis musicien, mais aujourd'hui je viens dans d'autres casquettes. Alors, la Bible dit, le passage dans lequel nous venons de lire, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 7 à 8, j'aimerais d'abord commencer par nous donner quatre éléments qui sont attachés à l'arrière-plan de l'histoire que nous sommes en train de lire ici. La première des choses qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est une histoire qui s'est déroulée tout juste après la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a dit à ses disciples qu'il sera crucifié, il sera tué, il sera pendu, mais le troisième jour, il va ressusciter. C'est après la résurrection de Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité, c'est en ce moment-là qu'il est en train de parler à ses disciples dans ses passages des Actes 1. La deuxième chose attachée à l'arrière-plan de cette histoire ici, de cette scène, c'est que Jésus-Christ ne s'est montré qu'à ses disciples. Après la résurrection de Jésus-Christ, c'est seulement les disciples qui ont vu Jésus-Christ. Donc, les miracles qu'il faisait avant, quand on entendait parler qu'il partait à Capernaum, guérissait les malades, ça c'était avant sa mort. Mais lorsqu'il est ressuscité, il n'y a que les disciples qui l'ont vu. Voilà même pourquoi il y a même des disciples qui avaient même envie d'aller toucher Jésus-Christ pour être sûr que ce n'est pas un fantôme, l'exemple de Thomas. Ça aura son importance dans la suite du message. Le troisième élément attaché à l'arrière-plan de ce message, c'est que Jésus-Christ, après sa résurrection, il a passé 40 jours avec ses disciples. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 3, c'est que Jésus-Christ a passé 40 jours avec ses disciples en train de les enseigner de ce qui concerne le royaume des dieux. Amen, amen. Le quatrième élément attaché au background ou l'arrière-plan de cette histoire ici, c'est que Jésus-Christ était en train de donner les dernières instructions avant de monter au ciel. Il était comme en train de donner les dernières paroles. Là, je suis en train même de me mettre dans la peau des disciples. S'ils étaient les Africains, vous savez, en Afrique, on peut beau écouter les conseils que nos parents nous ont donnés pendant leur vivant, mais on retient beaucoup plus ce qu'ils nous disent avant de mourir. Et là, quand j'étais en train de lire, j'ai soupçonné, certainement je n'ai pas des versets bibliques qui peuvent me soutenir là-bas, mais j'ai soupçonné que les disciples, quand Jésus-Christ était en train de dire ça, ils étaient en train de noter quelque part. Parce que c'était comme la dernière instruction. Malgré tout ce que Jésus-Christ a dit dans son vivant, il était en train de donner les dernières instructions en disant, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et vous pouvez remarquer que cette instruction que Jésus-Christ était en train de donner à ses disciples avant de partir en semblait être pertinente pour les disciples. C'était une instruction qui a fait beaucoup penser aux disciples. Si vous lisez bien, vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ ne dit pas que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous êtes mes témoins. Pourtant, les disciples ont été témoins du parcours de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il guérissait les malades? Comment est-ce qu'il faisait des miracles? Ils ont été témoins de la mort de Jésus-Christ. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est eux-mêmes qui ont été témoins même de la résurrection de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ se donne quand même la peine de leur dire, vous n'êtes pas encore mes témoins, mais vous serez mes témoins. Quelle confusion qui est entrée dans les cœurs des disciples. Et c'est la raison pour laquelle, si vous lisez la suite du chapitre là, la Bible dit que les disciples, quand on leur avait dit d'aller attendre, ils n'étaient pas partis rester quelque part. Ils sont partis prier. En fait, l'instruction que Jésus-Christ a donnée leur semblait très, très pertinente. Amen, amen. Ça aura son importance dans la suite. Jésus-Christ qui est en train de dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mes frères et sœurs, si on définit un témoin dans le sens simple, en fait, dans la nature très, très simple, vous allez comprendre qu'un témoin, c'est seulement quelqu'un qui a été présent lorsqu'une scène s'est déroulée, simplement dans sa définition. C'est quelqu'un qui a participé, qui a vu un fait. C'est ce qu'on appelle témoin. Mais ici, Jésus-Christ est en train de dire aux disciples que vous n'êtes pas encore mes témoins. Qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est-à-dire que tous les temps que nous avons passé en train de voir ce que tu faisais, nous ne sommes pas toujours les témoins. Nous ne sommes pas encore. Mais si vous lisez, mais quand vous voyez les mots témoins que Jésus-Christ est en train d'utiliser ici, bon, d'abord peut-être avant d'aller très loin, il faudra que l'on comprenne une chose, c'est que la Bible a été écrite dans trois langues originaux. La Bible a été écrite en araméen, en hébreu et en grec. Donc pour comprendre certains mots, le contexte de certains mots, il faut avoir cette culture-là d'aller chercher dans la racine. Les témoins dont Jésus-Christ est en train de parler ici, ce n'est pas quelqu'un qui a participé à une scène. Parce que la version grecque par laquelle est traduit le mot témoin ici, c'est martureo, qui signifie martyr. D'ailleurs, c'est là que j'ai intitulé mon thème de cet après-midi, martyr. Et nous savons très bien qu'un martyr, c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour quelque chose ou pour une cause. On a dit au Congo, c'est nous qui avons vraiment beaucoup utilisé le terme martyr de l'indépendance. C'est-à-dire des gens qui ont accepté de donner leur vie afin que notre pays soit dans l'indépendance. Amen, amen. Donc ici, Jésus-Christ est en train de leur dire que vous devez accepter de renoncer à votre propre vie afin de vivre ma vie. Les martyrs de l'évangile, si je peux les résumer en ce sens-là. Raison pour laquelle moi je reste convaincu que ne deviens pas témoin celui qui a vu ce que Jésus-Christ faisait, mais deviens témoin celui qui est et qui fait ce qu'il a vu Jésus-Christ faire. Amen, amen. Ce n'est pas parce que j'ai vu ce qu'il a fait, mais parce que je suis comme il est et j'ai fait ce que j'ai vu qu'il a fait,
c'est en ce moment-là que je deviens ce qu'on appelle témoin de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait devenir témoin de Jésus-Christ ici? Donc ici, il ne s'agit pas de voir ce que Jésus a fait, mais il s'agit d'être et de faire ce que Jésus-Christ a fait. C'est ce qui fait de nous les témoins de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je suis en train de venir annoncer que le vent qui va caractériser la jeunesse de notre paroisse, c'est que beaucoup de témoins de Jésus-Christ seront engendrés pendant ces moments. Amen, amen. Beaucoup de témoins, de personnes qui vont accepter de renoncer à leur vie afin d'exposer la vie de Christ. Raison pour laquelle la Bible dit, mais vous, au contraire, vous êtes une nation élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, qui ont été appelés du ténèbre à son admirable lumière pour proclamer les hauts faits de l'Éternel. Amen, amen. Un témoin de l'Éternel, c'est quelqu'un qui accepte de renoncer à sa vie. Que des gens, que des jeunes actuellement qui veulent devenir des témoins de Jésus-Christ, mais qui ne veulent pas renoncer à leur vie. Des personnes qui aspirent à devenir des témoins de Christ, mais ils ne renoncent pas à leur ancienne vie. La prière que je suis en train d'adresser à Dieu chaque fois, surtout ces derniers temps, je suis en train de dire à Dieu, donne-moi la grâce de haïr ma vie afin que je puisse prendre ta vie. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aussi longtemps que l'on reste avec une vie, une seule vie, notre propre vie, nous n'allons pas accomplir la volonté de Dieu. Vous savez, j'ai dit ici dans mon introduction que c'est seulement aux disciples que Jésus-Christ s'était révélé après la résurrection. C'est-à-dire, pour que l'humanité puisse savoir si réellement Jésus-Christ était ressuscité, il a fallu que les gens qui ont vu Jésus-Christ ressuscité le manifestent au monde, afin que le monde dise absolument, le Seigneur qui était mort, il est ressuscité en voyant ces gens. C'est là où il y avait les problèmes des disciples. C'est seulement là-bas, parce que c'est eux, c'est seulement eux seuls qui ont vu Jésus-Christ ressuscité. Et Jésus-Christ leur dit, il dit, vous serez mes témoins, vous allez me témoigner. Là, il est en train de dire, mais vous serez mes témoins à Jérusalem. Là, il est en train maintenant de donner les lieux. C'est-à-dire, là à la maison, chez vous, il faut que vous puissiez témoigner de moi. Parce que si vous lisez très bien la Bible, lorsque Jésus-Christ était ressuscité, on avait payé aux gardes d'aller dire que non, les disciples sont venus, ils ont enchaîné. Les gardes, ils ont pris le corps de Jésus, mais en réalité, Jésus-Christ n'était pas mort. C'est comme... C'était ce qui circulait comme information dans la ville. C'est-à-dire, les gens étaient dans la confusion. Ils ne savaient pas si est-ce que réellement Jésus-Christ était ressuscité ou c'est comment. La confusion totale dans la ville. Et Jésus-Christ, par sa propre volonté, a choisi juste une petite quantité de gens sur qui il va se révéler, afin que ces gens-là aillent confirmer réellement que Jésus-Christ était ressuscité. Amen, amen. Alors, là, ça devient directement une complication pour les disciples. Ils doivent faire tout pour que les gens puissent voir. Et Jésus-Christ est en train de dire, vous serez mes témoins à Jérusalem, c'est-à-dire chez vous à la maison, il faut que vos parents qui ont écouté qu'on avait volé mon corps, qu'ils témoignent par leur propre bouche en vous voyant seulement la façon dont vous allez me faire apparaître à eux, qu'ils disent assurément que c'est Jésus a été ressuscité. Il dit encore à Jérusalem, il dit, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, dans la Samarie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Samarie, c'était une ville hostile pour les Juifs. Là, on n'aimait pas les Juifs. Mais Jésus-Christ dit, même là où on ne vous aime pas, il faut que ces gens-là confirment assurément que le Jésus-Christ que vous servez, il est ressuscité. C'est ça, c'est ici où il y avait l'examen pour les disciples. Et ils sont dit non. Ce que nous devons faire ici, c'est aller seulement prier. Aller seulement prier, aller chercher. Aller seulement demander à Dieu comment est-ce que nous allons faire pour devenir témoins de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, il y a l'attitude que les disciples ont manifestée ici qui va nous aider à comprendre comment est-ce que l'on devient un témoin. J'ai dit d'abord, la première des choses, c'est d'accepter de renoncer à sa vie et de vivre la vie de Dieu. Et là, j'aimerais vous dire que c'est très facile à dire par la bouche, mais c'est très compliqué, c'est très compliqué. Très compliqué, mais c'est possible. Alors, Jésus-Christ, après avoir donné ses instructions aux disciples, quand il était en train de monter, les disciples, normalement, ils devaient mettre de côté ce que Jésus-Christ a dit. Ils avaient vraiment tous les droits de mettre de côté, parce que Jésus-Christ, dans Matthieu 28, il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'était déjà comme un faveur qu'on a donné aux disciples d'aller prêcher l'évangile. Mais encore dans Actes, il commence à dire que non, vous devez aller attendre à Jérusalem que la puissance survienne sur vous afin que vous puissiez devenir mes témoins. C'est comme une contradiction. Moi, si j'étais un disciple à cette époque-là, j'allais dire à Outipe Ouyou, Anonimuto Amalogique, c'est un philosophe qui a fait tout compliqué. Il a déjà donné le feu vert pour aller évangéliser. Mais encore, il nous dit d'attendre qu'une puissance descende sur nous afin de devenir ses témoins. Mais qu'est-ce qu'il veut dire au juste? Mais j'ai apprécié les disciples parce qu'ils avaient connu d'abord leur maître d'avance. Ils ont dit qu'ici, nous devons obéir. Et la première des choses pour que nous soyons des véritables disciples, plutôt les véritables témoins que le Père est en train de rechercher en ce moment, il faut que nous ayons la vie d'obéissance à la parole de Dieu. Même lorsque ça arrive que nous nous retrouvons dans la confusion, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on doit faire une chose, mais quand c'est la parole de Dieu, quand il vous dit « allez », quand il vous dit « attendez », quand il vous dit « ne bougez pas si la puissance n'était pas descendue sur vous », mais vous obéissez quand même, c'est là le début, c'est le début de devenir un témoin. Quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir une vie d'obéissance à la parole de Dieu, il n'est pas un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui va soumettre sa volonté à la volonté de Dieu et laisser Dieu faire. Parce que c'est lui qui sait ce que tu dois faire afin que la mission réussisse. Raison pour laquelle j'aimerais nous dire en insistant là-bas, bien-aimé dans le Seigneur, sans l'obéissance, il est impossible de devenir témoin de Jésus. Et vous voyez les disciples, Ils ont obéi à la parole de Dieu. Ils n'ont pas obéi à l'instruction d'un homme. C'est Jésus-Christ qui était Dieu lui-même qui a donné cette instruction et les disciples ont obéi. Malgré, parce que je me rappelle, même si vous lisez Matthieu, quelque part Jésus-Christ, il a envoyé les disciples pour aller faire une mission. Et quand ils revenaient, ils ont commencé à dire à Jésus-Christ, nous avons chassé les démons. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà la puissance de chasser les démons et de guérir les malades. Mais Jésus-Christ, à la Bambia, c'est vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Mais ils ont quand même obéi. L'obéissance nous amène à commencer une vie de témoignage. Parce que quand tu obéis à Dieu, c'est là que Dieu est avec toi dans tout ce que tu vas faire. Amen, amen. L'obéissance étant la première clé qui nous amène dans la vie des témoins. La deuxième des choses, l'attitude que les disciples ont manifestée après que Jésus-Christ ait dit ces choses, c'est que tellement ils étaient confus par l'instruction que Jésus-Christ a donnée, ils n'ont pas trouvé autre chose à faire que d'aller chercher Jésus-Christ dans les hauteurs. Ils ont eu cette soif-là, le désir d'aller comprendre. Mais pourquoi il dit ça? Donc, ils ont eu le désir, la soif, avant d'abord de prier. Parce que bien aimé dans le Seigneur, la soif, c'est d'ailleurs la chose que Dieu voit avant une action quelconque. Les désirs du cœur. Quand les disciples étaient confus, alors que Jésus-Christ était en train de dire ces choses ici, ils ont eu le désir d'aller prier. Parce que s'ils n'avaient pas vraiment le désir, ils devraient rester et s'éparpiller parce que Jésus-Christ avait déjà donné une promesse que le Saint-Esprit survenant sur vous, ils devaient rester en train de déambuler en attendant le Saint-Esprit. Mais ils ont eu quand même la soif d'aller poser la question à Jésus-Christ. Dans la prière, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans la chambre haute en train de prier pour qu'ils puissent savoir comment est-ce que ces choses-là vont se passer. La deuxième chose qui nous amènera à devenir des témoins au-delà de l'obéissance, bien-aimés dans le Seigneur, c'est d'avoir la soif de connaître Christ, de savoir ce qu'il veut que nous puissions faire. Et avoir la soif de creuser le profondeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Que des gens qui veulent devenir des témoins, mais qui n'ont pas soif de connaître Christ. Les disciples ont eu la soif. Et la troisième des choses maintenant qu'ils ont fait, ils étaient en train de prier. L'obéissance, la soif, précède toujours la prière efficace. Si ces deux choses-là ne sont pas réunies au début de la prière, sachez bien que vous allez perdre votre temps en train de prier. Parce que ce que je suis en train de vous dire, avant une action, Dieu voit d'abord la motivation. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir prier? Tu veux devenir un témoin. Tu n'es pas obéissant. Tu n'as pas la soif de connaître Christ. Quel témoignage tu vas rendre? Donc ici, je suis en train juste de nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, qu'à part les deux attitudes que les apôtres ont manifestées, ils ont commencé maintenant à prier. Et ici, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, vous pouvez les remarquer avec moi, n'avait pas dit que le Saint-Esprit viendra le jour de la Pentecôte. Il n'a pas précisé ça. Il a dit, allez seulement attendre, une puissance surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit que ça sera le jour de la Pentecôte. Et si vous calculez très bien, il a passé 40 jours avec ses disciples. La Pentecôte devait venir le 50e jour. C'est-à-dire que les disciples ont passé 10 jours dans la prière. Mais toi, faire un jeûne d'un seul jour, tu es comme quelqu'un qu'on va enterrer. Ils ont passé 10 jours et ils ne se lamentaient pas. Parce que la Bible dit qu'ils étaient là d'un commun accord, en train d'attendre, de patienter jusqu'à ce que cette puissance-là viendra. Ils ont passé 10 jours dans la présence de Dieu. Toi, arriver même à prier 30 minutes, c'est toute une éternité pour toi. Mais tu veux devenir un témoin. Arriver même à prier une heure, c'est un problème pour toi. Il y a quelqu'un qui va me dire, mais pourquoi passer 10 jours dans la prière alors que la Bible dit que Dieu, en fait, Dieu n'exauce pas le temps que nous avons passé dans sa présence. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire attention. Quand on se gagne de quoi fou là, je pense la semaine passée, il fou là en goût. Il y a 30 minutes au jour. Il y a un bien. Mais quand on a tiré, il a fait une heure. Ça fait une heure au soleil, exposé au soleil. Habite à quoi on a sécheré ce mois, il y a 30 minutes. Donc, quand toi tu t'exposes à Dieu seulement 2 minutes, quand tu te réveilles, tu pries pendant 2 minutes et puis tu pars, mais il y a quelqu'un qui est en train de prier pendant 10 heures, pendant 4 heures du temps, vous n'allez pas avoir la même puissance, bien-aimé dans le Seigneur. Connais-vous? En fait, ne soyons pas naïfs, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le sens de penser que non, ceux qui prennent du temps dans la prière, ce sont des personnes qui sont en train de perdre le temps pour rien. Non! Toi, tu peux prendre les 2 minutes là, mais tu n'auras pas la même puissance que celui qui a passé plus de temps dans la présence de Dieu. L'exposition au soleil et au soleil des 2 minutes ne peut pas avoir le même effet que quelqu'un qui s'est exposé au soleil pendant 30 minutes ou voire même une heure. Le problème en est que nous voulons devenir des témoins, mais nous ne sommes pas capables de payer les prix. Les disciples ont payé les prix, ils ont accepté de renoncer à leur vie et de passer du temps en train d'attendre à ce que la puissance survienne sur eux. Que des gens qui veulent devenir des grands témoins, des grands serviteurs de Dieu, mais qui ne veulent pas payer les prix. J'aimerais d'abord vous amener dans un exemple très très simple. Les païens, les satanistes, ce sont des gens qui savent payer les prix. Aujourd'hui, si la médiocrité est entrée dans l'église, mais qu'on voit les païens en train d'exceller, parce que c'est clair, on est en train de voir que dans des églises en ces derniers temps, on n'a que la médiocrité qui se passe. C'est simplement parce qu'à l'église, les gens ont peur de payer les prix. Ils ont peur de payer les prix. Un sataniste, on lui dit, il faut que tu sois à l'église, bon, à leur temple, je ne sais même pas s'il faut que j'appelle ça église, à 10 heures, une minute. Il ne peut pas même dépasser une seconde. Mais nous, on dit on sera au culte à 11h30. Il est 11h45. Tu prends ton temps comme si de rien n'était. Aucun prix que tu payes. Donc, on voit même que la mentalité de discipline dans la vie des chrétiens n'existe plus. Mais ils aspirent quand même à devenir des témoins. C'est impossible, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est impossible de prétendre devenir quelqu'un qui va témoigner Christ avec autant de médiocrité dans ta vie. Ingelwa seme kukanisa wanasema kano malifika mbele kuna $100 pale kumulango. Kama tunakosaka fasi ya kutia watu. Tu vois que l'intérêt des gens se tourne vers les choses matérielles parce que selon eux, Dieu est invisible et n'existe pas. Il faut que nous puissions faire attention. Il ne s'agit pas seulement de désirer de devenir un témoin, et on est en train de refuser de payer les prix sur certaines choses. Amen, amen. Devenir un témoin inclut les prix à payer. Devenir un témoin inclut des sacrifices qu'il faut donner. Quitter la zone de confort. Oh non, moi, je me pose toujours la question, comment est-ce que vous aspirez à devenir des témoins Mais l'estomac va se fatiguer. Vous ne savez pas que les jeunes, non seulement il a tout ça, il dit pour rencontrer Dieu, mais ça il a ça dit estomac tout quand c'est pour musique. Ton estomac travaille du lundi au dimanche, chaque jour. Mais il t'a choqué. Toi, tu manges du lundi, mardi, et puis moi, je mange trois fois par jour, et le dimanche, quand tu arrives ici. Et vous savez, les conséquences, c'est quoi? C'est que nous qui ne payons pas les prix, nous sommes les admirateurs de ceux qui payent les prix. Si on a ce qui est à Tunga Kanyimokake, je crie. Non, on a imba. Tu ne sais pas que lui, il a passé du temps en train de monter dans les hauteurs et de capter cette mélodie. On est devenus des admirateurs, mais on ne fait absolument rien. Il y a certaines prédications dans lesquelles on n'attend que la théologie. Donc lui, c'est tout ce qu'il a acquis à l'école, mais aucune puissance. Aucune puissance. Il y a des personnes ici qui ont payé les prix jusqu'à ce que si vous voyez seulement sur l'affiche que c'est lui qui va prêcher telle part. Oh, frère bien-aimé dans le Seigneur est en train de nous appeler à une dimension où nous allons imposer l'autorité divine dans notre génération. Être des témoins, Jésus-Christ était quelqu'un qui arrivait quelque part là où il y avait les mauvais esprits, ça fouillait. Mais il y a des gens qui sont calmes et ils pensent que c'est normal d'arriver dans une église où on ne voit pas des gens qui sont en train, des personnes possédées, se retrouver dans l'insécurité. Et on pense que Dieu est avec nous. Tu sauras que Dieu est avec toi lorsque ta présence va créer l'insécurité dans les camps des ennemis. C'est ça. Moi, ma prière de tous les temps, je dis à Dieu de ne pas me laisser vivre le naturel seulement. Moi, je veux qu'à un jour, à un moment donné, que nous puissions arriver à la dimension où notre présence dans cette paroisse va commencer à créer un pagaille débandant total dans les camps de l'ennemi. C'est la dimension à laquelle moi je me dis que le Seigneur me donne la grâce de haïr ma vie afin de vivre sa vie pour que le monde dise assurément que le Seigneur est avec. Le prophète Élisée, il est arrivé même à la dimension de dire à Naaman, il saura qu'il y a un prophète ici. Donc, ce n'est pas dit qu'il saura qu'il y a un Dieu ici, mais il saura qu'il y a un prophète de Jésus-Christ ici. Donc, lui, tellement qu'il avait une puissance acquise auprès de Jésus-Christ, il a été en mesure de mettre même son titre ou même son appel en jeu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire, mes frères? Ne soyons pas satisfaits de la dimension à laquelle nous sommes. Parce que cette satisfaction-là, c'est ce qui fait à ce que nous n'avançons pas avec l'Éternel bien-aimé. Et on reste seulement là. Vous ne savez pas combien de fois j'ai été frustré quand je vois ma mère, elle est malade, elle est en train de souffrir. Et je me retrouve que je n'ai que le piano à jouer et parler, mais je n'ai aucune puissance de guérir. Ça me faisait très mal. Et puis, c'est ce qui a créé en moi une soif de dire non, Seigneur. Il faut que je te cherche. Moi, je voyais comment est-ce que tu faisais. Il y a un paralytique. Non, c'est pas le lépreux. Il est, je crois, dans Marc chapitre 3, chapitre 2. Il y a un lépreux qui est venu devant Jésus. Si tu veux, tu peux me rendre pur. La Bible dit Jésus eut compassion. Et il a guéri ces lépreux-là. Mais il nous a dit quand même d'être les témoins. Mais on n'est même pas capable de guérir une rhume. Il y a quelqu'un qui va me dire, mais non, l'essentiel c'est d'avoir l'amour. Mes frères et sœurs, nous savons que l'amour est la base de toutes choses. Mais le monde n'a pas seulement besoin de ton amour, parce qu'il y a des philanthropes qui manifestent cet amour-là. Tu risques d'être confondu par un philanthrope, un donateur. Il faut que tu opères dans la dimension de la puissance. Il faut que tu opères dans la dimension de la puissance d'autorité. Quand tu vois un paralytique, tu n'as pas besoin de prier beaucoup, tellement tu as accumulé la puissance. Tu témoignes de Jésus-Christ par guérir cette malade. Oh non, l'amour de Dieu, ça suffit. Je sais. Je sais que l'amour qui est là-bas, qui est la base. Mais à un moment donné, bien-aimé, ne soyons pas naïfs, s'il vous plaît. Ne soyons pas naïfs. Le monde a déjà vu toute forme de gens. Et moi, je suis toujours contre ceux-là qui pensent que l'amour s'éprouve par les actions. Il y a des actions qui ne sont pas forcément les preuves d'amour. On peut te donner des choses, mais ce n'est pas par amour. Il veut peut-être que tu puisses les voter parce qu'il a postulé. Mais on va vous confondre avec cette personne-là. Mais lorsque toi, tu as d'abord l'amour en toi, mais tu es quand même capable de dire, toi, esprit impur, sors dans ce corps et l'esprit t'obéit. Là, tu es un témoin maintenant. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je crois que c'est dans Marc chapitre 16. Ils chasseront les démons, ils vont guérir les malades. Vous voyez toutes ces choses-là, on ne les expérimente pas. Et l'Église ces derniers temps, tellement nous avons été exposés à des mauvais exemples que des personnes qui ont été établies des prophètes mais qui sont venues pour l'escroquerie, le diable a réussi d'incrister en nous des doutes. On ne croit plus que Jésus-Christ est capable de guérir. On ne croit plus que Jésus-Christ est capable de chasser les démons. On se limite qu'à des simples. On ne veut pas percer, aller en profondeur pour que nous puissions faire des choses que Jésus-Christ faisait tellement nous étions exposés et déjà nous étions exposés aux mauvais exemples et déjà l'incrédulité est en train de naître dans la vie des chrétiens que des gens qui ne croient plus que Jésus-Christ est capable de faire quelque chose. C'est lui qui a multiplié 5 pains avec 2 poissons qui a nourri tout un peuple. Vous savez, Jésus-Christ avait la possibilité de dire à ses peuples, allez d'abord à la maison pour aller manger et puis vous allez revenir. Mais il a dit non, il faut que ces gens ici reconnaissent assurément que c'est un Dieu qui m'a envoyé, amenez ce que vous avez. Il a simplement prié pour ça et il a distribué. Et les disciples étaient là, ils ont vu. Mais la dernière instruction, on leur dit, vous serez mes témoins, vous allez faire les mêmes choses que moi. Et le jour de Pentecôte, lorsque la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, lorsque la puissance a descendu, la Bible dit que les flammes de feu apparurent sur leur tête. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que cette flamme-là est venue pour consumer leur vie ancienne. Leur vie qu'ils avaient avant, la vie où, parce que vous savez, Pierre, ce qu'il faisait, en fait, ce qu'il retenait auprès de Jésus-Christ, c'est parce qu'un jour Jésus-Christ a dit que c'est vous qui m'avez suivi, je vais multiplier au centuple ce que vous avez. Vous aurez d'abord mia qua mia pacini et puis vous aurez la vie éternelle. La vie éternelle n'intéressait jamais Pierre, ne l'intéressait pas. Parce que lui, il voyait, j'avais 4 pirogues, donc fois 100. Ça sera 400 pirogues et je serai aussi parmi les hommes les plus riches. C'est cette vie-là qu'il a abandonnée lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit. Et il s'était tourné directement dans la vie des témoignages, la vie dans laquelle il devait témoigner de Christ. Il devait manifester. Lui qui n'avait pas la capacité de parler avant, ces jours-là, la Bible dit, il a commencé à parler avec autorité et des gens ont commencé à croire en Jésus-Christ. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de conclure mon message cet après-midi en nous disant une chose. Jeunesse de Goma Ville, réveillons-nous. Jésus-Christ veut faire dans cette saison de grandes choses avec nous, mais nous sommes appelés à nous réveiller et de chercher Christ comme jamais auparavant. Réveillons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Ne restons pas dans la satisfaction de ce que nous avons. Il y a bien plus que cela. Il y a bien plus que cela que Jésus-Christ est en train de réserver pour nous. Et dans les jours qui sont en train de venir, ça va arriver des moments où les gens ne vont plus nous comprendre tellement que la puissance de Jésus-Christ sera ancrée en nous. Les gens ne comprendront plus rien. Par eux-mêmes, ils diront assurément que le Seigneur est avec. Et il se poserait des questions. Peut-il venir quelque chose de bon à Gomaville? Nous n'allons pas répondre en disant oui. Mais on va leur dire, viens et vois. Le Seigneur m'a envoyé pour annoncer que le réveil est en train d'arriver. Mais Jésus-Christ est en train de chercher des témoins parmi nous. Des personnes qui vont accepter de renoncer à leur vie ancienne. Et d'aller dans les hauteurs pour chercher. D'aller chercher les sons qu'aucune oreille n'a entendu. D'aller chercher
dans les hauteurs des choses qui n'ont pas encore été vues ici sur terre, pour que le monde témoigne que Jésus-Christ est avec nous. Tu as créé l'univers par ta parole, le monde et tous ceux qui renferment.
J'aimerais que tu fasses de ces chants la prière, bien-aimé dans le Seigneur.
C'est pourquoi je crois encore aujourd'hui.
Est-ce que la chorale peut me rejoindre?
Oh, ta parole.
Et on peut se mettre debout, s'il vous plaît.
Ta parole demeure toujours efficace.
Oh, pour changer, pour changer
et transformer des vies.
Pour changer,
et transformer des vies.
Oh, je viens
sans toi, Seigneur.
Oh, par ta parole,
change-moi.
Par ta parole, transforme-moi.
Par ta parole, sanctifie ma vie.
Oh, fais de moi
ton instrument
pour transformer la société.
Ça,
c'est ma saison. Fais de moi ton instrument pour le salut.
Pour le salut dans ce général.
Oh, telle est ma prière. Alléluia.
Je viens à toi, Seigneur.
Par ta parole,
alléluia.
Par ta parole,
transforme.
Par ta parole,
sanctifie ma vie.
Société,
oui,
fais de moi
ton instrument
pour le salut dans cette génération.
Oh, quelle est ma prière?
Oui, j'aimerais que tu commences déjà à dire à Dieu: aujourd'hui, Père Tout-Puissant, j'ai encore besoin que tu puisses m'accorder la grâce d'haïr ma vie ancienne afin d'avoir ta vie. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? J'aimerais t'entendre prier, bien-aimé dans le Seigneur. Ne reste pas calme. C'est le moment où le Seigneur est en train de chercher quelle est la personne qui va être mon témoin dans cette génération. On peut trouver des gens qui ont accepté de témoigner de Christ à Gomaville. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en train de nous abandonner complètement devant toi. Cet après-midi, nous avons écouté ta parole et nous voulons témoigner de toi. Nous ne voulons pas vivre le naturel. Nous voulons expérimenter le surnaturel. Il faut que nous puissions te vivre dans toutes tes dimensions. Oh Jésus-Christ de Nazareth, laisse à ce que ta grâce, ta puissance descende sur nous et que nous puissions te voir et te vivre, t'expérimenter, devenir des véritables témoins. Accorde-nous d'haïr notre vie. Accorde-nous de nous donner en toi afin de te manifester dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu feras ces choses et tu vas te manifester au sein de notre Église. Alléluia. J'aimerais inviter les pasteurs, il va clôturer ces moments par la prière.
Oui, Seigneur. Notre prière est que tu fasses de nous des instruments pour transformer la société. Des instruments pour transformer l'Église. L'Église, institution pour laquelle ton Fils Jésus-Christ a versé son sang. Merci Seigneur pour cette parole vivante que nous venons de suivre. Seigneur, que ton esprit règne dans la vie de chacun de nous. Que chacun de nous fasse l'introspection de son cœur, Seigneur. Que chacun de nous fasse l'évaluation de sa vie. Que chacun de nous reconnaisse l'identité qu'il a trouvée en toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que les dons que tu as donnés à chacun puissent se manifester pour l'édification de ton Église. Quand ton Saint-Esprit a été versé dans l'Église, il a donné une multiplicité de dons, Seigneur. Des dons de guérison, des dons de prophétie, des dons de parler en langue, des dons de l'édification par ta parole. Seigneur, nous prions que celui à qui tu as donné les dons de guérir, que ça se manifeste dans sa vie. Celui que tu as donné les dons de prophétie, que ça se manifeste dans l'Église, afin que l'Église soit édifiée. Celui à qui tu as donné les dons de l'édification de ton peuple, celui qui peut se mettre devant ton peuple, et ton peuple est béni. Seigneur, permets à ce que ça se manifeste. Tu as donné une multitude de capacités pour chacun de nous. Seigneur, nous voulons vivre ta paix dans l'Église. Nous voulons vivre, Seigneur, ta présence dans l'Église. Nous voulons que tu te manifestes dans l'Église, Seigneur, afin que le monde voit réellement que nous sommes des témoins que tu as choisis, afin que nous puissions te témoigner dans le monde entier. Pas seulement là où nous sommes, mais aussi là où il y a ceux qui ne te reconnaissent pas. Merci Seigneur, car tu vas agir. Bénis ton serviteur que tu viens d'utiliser cet après-midi. Gloire à toi Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.